Merci de prendre place. Nous sommes 6 jours après, dit le texte, quand Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et qu'il les conduit à l'écart sur une haute montagne, sans doute le mont Hermon, peut-être le mont Tabor. Luc est le seul à mentionner que Jésus monte pour prier. 6 jours après, mais après quoi ? 6 jours après l'épisode que nous avons considéré dimanche dernier dans notre nouvelle série sur l'apôtre Pierre, à savoir la belle confession de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » et la promesse faite par Jésus à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. 6 jours aussi, après que Pierre, suite à cette déclaration de Jésus, ne reprenne le Seigneur, quand il lui annonce sa mort et sa résurrection, enfin quand il leur annonce sa mort et sa résurrection, et se fasse ensuite reprendre lui-même par Jésus. 6 jours enfin, après que Jésus, dans la foulée de tout ce que nous venons de rappeler, n'enseigne à ses disciples comment le suivre. Nous n'avions pas considéré cette partie-là. Matthieu termine l'épisode de la semaine dernière en précisant ces paroles de Jésus. « Amen, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant dans sa royauté. » Le texte parallèle de Marc dit « avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. » C'est cette parole de Jésus qui nous permet en grande partie d'avoir le juste regard sur l'événement que nous allons considérer ce matin, c'est-à-dire la transfiguration de Jésus. Et je vous invite à en lire le récit dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 17. Nous allons lire les versets 1 à 9 et nous allons commencer avec le dernier verset du chapitre 16. Matthieu, donc chapitre 17, 1 à 9, et je lis simplement pour commencer le dernier verset du chapitre précédent. Amen, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant dans sa royauté. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, qui s'entretenaient avec lui. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et une voix retentit de la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'une grande crainte. Mais Jésus s'approcha, les toucha de la main et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent personne que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit réveillé d'entre les morts. » Jésus termine son enseignement en annonçant que certains des disciples présents ne goûteront pas la mort, c'est un euphémisme pour mourir tout simplement, avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant dans sa royauté. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si certains ont vu dans ces paroles de Jésus une allusion à la résurrection, ou alors au don de l'Esprit à la Pentecôte, ou encore à la parousie, c'est-à-dire à la seconde venue de Jésus, la plupart des commentateurs s'accordent pour voir ici simplement une annonce des événements qui suivent, 6 jours plus tard, c'est-à-dire une annonce de la transfiguration de Jésus. Le lien qui est fait dans notre texte par les 6 jours, le fait que cela se passe du vivant de certains disciples présents, et puis ce que Pierre va dire de la transfiguration dans sa 2e épître, nous allons le lire un petit peu plus tard, convergent et militent pour que cette annonce de Jésus se réalise dans sa transfiguration. Ce qui veut dire que la transfiguration de Jésus doit alors être comprise comme une vision anticipée et limitée de la venue du règne de Dieu. On peut ajouter avec puissance, puisque Marc le précise dans son texte parallèle. Bien sûr, la transfiguration de Jésus n'en est qu'un aperçu. Le règne ou le royaume de Dieu ne viendra complètement, ne viendra définitivement que lors du retour de Jésus. Voilà pour la compréhension générale de l'événement. Maintenant, il reste à en déterminer le sens de tout ce qui se passe, et puis aussi la nécessité de cet événement, dans quel but, pourquoi faire, pourquoi cette vision anticipée et momentanée de la venue du règne de Dieu avec puissance. Avec puissance. Alors commençons par l'événement lui-même. Que s'est-il passé là-haut sur la montagne ? Quels sont les faits et quel est leur sens ? Jésus prend avec lui quelques disciples pour aller prier. La journée a certainement été longue et fatigante, d'autant plus fatigante qu'elle se termine par cette ascension de cette haute montagne, dit le texte. Et il n'est donc pas surprenant que Luc, dans son récit de cet événement, nous dise que les disciples se sont endormis. Et il précise même qu'ils étaient accablés de sommeil. Jésus l'était sans doute aussi, mais Jésus prie. C'est Luc donc qui le précise. Et alors qu'il prie, il est transformé. Le verbe qui est utilisé ici dans le grec se traduit littéralement par le verbe français « métamorphoser ». Et ce verbe n'apparaît que 4 fois dans le Nouveau Testament, 2 fois pour Jésus dans le texte de Matthieu et dans le texte parallèle de Marc, et puis 2 fois pour la transformation du chrétien dans les épîtres de Paul, transformation à l'image du Christ, métamorphose à l'image du Christ. L'apparence de Jésus est donc radicalement changée, transformée, métamorphosée. Ceci dit, on peut noter que la véritable transfiguration de Jésus, la véritable métamorphose de Jésus a en réalité eu lieu à Bethléem par l'incarnation. Pour reprendre les paroles de Paul aux Philippiens, dit qu'il était vraiment divin, lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. C'est l'incarnation de Jésus qui est la véritable métamorphose de Jésus en réalité. L'apparence de Jésus est donc transformée. Son visage et ses vêtements se mettent à resplendir. Le témoignage des 3 évangiles qui rapportent l'événement converge pour donner une impression de quelque chose de glorieux. J'ai rassemblé là les 3 versets des 3 évangiles qui en parlent. Matthieu dit « Il fut transfiguré devant eux, son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Matthieu donc, Luc dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et puis Marc dit, il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle qu'il n'est pas de teinturier sur terre qui puisse blanchir ainsi. C'est du blanc, plus blanc que blanc. Le règne de Dieu qui vient avec puissance se manifeste ici par quelque chose de la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, Luc, dans son récit, va utiliser ce mot de gloire au chapitre 9, versets 31 et 32. Il y avait là deux hommes qui s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Réveillés, ils virent sa gloire. Ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec lui. En fait, ce que nous lisons ici de la transformation de Jésus nous renvoie à des choses que nous connaissons dans l'Ancien Testament. Nous renvoie par exemple à la gloire qui couvrait le mont Sinaï, quand Dieu y était présent pour donner la loi, puis la gloire qui couvrait le tabernacle, et ensuite, après la conquête, la gloire qui couvrait le temple. Nous fait aussi à penser au visage de Moïse, qui rayonnait, qui resplendissait, après avoir été sur la montagne pendant 40 jours avec le Seigneur. Et on peut noter qu'il y a, alors, il faudrait prendre du temps, mais je vous en donne juste les grandes lignes. Il y a plusieurs points de contact fort intéressants entre notre récit et un des récits de la montée de Moïse sur le mont Sinaï, c'est dans Exode 24. Et là, dans cet épisode d'Exode 24, on va retrouver les 6 jours de préparation avant la révélation, la montagne, bien évidemment, la nuée, la voix, la gloire resplendissante, et même 3 accompagnants, en plus des 70 anciens, c'est-à-dire Aaron, Nadab et Abihu. Il y a trop de convergence entre ces 2 textes, me semble-t-il, pour que ce soit juste une coïncidence. Et cela nous amène à penser que quelque chose d'unique est en train de se passer sur le mont de la Transfiguration. Quelque chose, en réalité, d'aussi important, et même beaucoup plus important, que le don de la loi au Sinaï. Nous allons y revenir un peu plus tard. Entre-temps, les disciples qui étaient endormis se sont réveillés. Et ils sont témoins de cette révélation de la gloire de Jésus, de la divinité de Jésus. On peut lire ce que l'apôtre Pierre va en dire bien des années plus tard quand il va rédiger sa première épître. Et nous voyons qu'à l'évidence, l'épisode l'a profondément marqué. Et dans ce que Pierre dit, il est aussi question de gloire. C'est dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 et 18. En effet, dit-il, ce n'est pas avec des légendes habilement imaginées que nous vous avons fait connaître la venue avec puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans nos propres yeux que nous avons vu sa grandeur. Il a reçu de la part de Dieu le Père honneur et gloire quand une voix portée par la gloire majestueuse lui parvint. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie. Cette voix, nous l'avons entendue nous-mêmes, qui venait du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Que s'est-il passé sur cette montagne cette nuit-là? Jésus a été glorifié à la vue de ses disciples en présence de Moïse et d'Élie. Cette nuit-là, quelque chose de la gloire de Jésus a rayonné sur cette montagne. Et le fait que ce soit la nuit a rendu la chose certainement encore plus saisissante que si elle s'était passée pendant le jour. Un commentateur dit la chose suivante, la divinité à l'intérieur de Jésus, la divinité à l'intérieur de Jésus a perforé le voile de sa chair et s'est mise à briller jusqu'à ce que son propre vêtement resplendisse lui aussi. Un mot maintenant sur la présence de Moïse et d'Élie. Comment comprendre qu'ils soient là ? Pourquoi ces deux personnages ? Pourquoi pas Abraham et David ? Ou Isaac et Jérémie, que sais-je ? Il y a toutes sortes d'explications qui ont vu le jour, vous vous en doutez. Mais je pense qu'il faut ici aller au plus simple. Aller au plus simple et essayer de déterminer la compréhension la plus vraisemblable pour les premiers témoins de l'événement. Notons en préambule que le texte ne dit pas comment Pierre, Jacques et Jean ont reconnu Moïse et Élie qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Ça, le texte ne le dit pas. L'interprétation traditionnelle, la plus vraisemblable et la plus évidente à mes yeux pour un auditeur du 1er siècle, est de voir ces deux personnages comme emblématiques, comme des figures symbolisant la loi et les prophètes dans l'Ancien Testament. Ainsi, la présence de Moïse et d'Élie signifie d'une part l'harmonie entre la loi, les prophètes et Jésus. Il n'y a pas de distinction de rupture à faire. Et d'autre part, signifie le passage de témoin entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en Jésus. L'ancienne alliance en Moïse, et dans tous les prophètes, et la nouvelle alliance en Jésus. Dieu avait annoncé, nous l'avons vu récemment, par la bouche de Moïse, la venue d'un prophète comme lui. La venue de ce prophète du Messie devait être précédée, disent les textes de l'Ancien Testament, et en particulier celui du prophète Malachie, devait être précédée de la venue d'Élie. Et c'est cette promesse d'Élie qui va faire que, après cet événement, les disciples vont être perplexes. Et ils vont poser une question à Jésus. Je lis les versets qui suivent, les versets que nous avons lus dans Matthieu, les versets 10 à 13. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils, il faut qu'Élie vienne d'abord ? Il répondit, il est vrai qu'Élie vient tout rétablir. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, ils vont faire souffrir le Fils de l'homme. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean le baptiseur. Jean le baptiseur qui est Élie. Les disciples sont donc perplexes après coup, parce qu'à leur connaissance, Élie n'était pas encore venu. Et si Élie n'était pas encore venu, ils sont dans l'erreur puisqu'il est venu en Jean-Baptiste, comment comprendre ce dont ils sont les témoins ? Comment comprendre ce passage de témoins si Élie n'est pas encore venu ? Mais Jésus leur dit qu'il est bel et bien déjà venu. Tout converge donc ici pour que les disciples et nous, à leur suite, comprenions que celui qui devait venir est venu, est là. Nous quittons l'ancienne alliance pour entrer dans quelque chose de nouveau. Le passage de témoins est en train de se faire. Un nouvel exode va pouvoir commencer. Et ce qui se passe sur cette montagne est ainsi infiniment plus important que ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Pourquoi est-ce que je vous parle de nouvel exode ? Je vous parle de nouvel exode parce que Matthieu ne dit rien de la conversation qui s'est passée entre Moïse, Élie et Jésus, mais Marc, lui, ne dit rien non plus. Par contre, Luc nous le dit au chapitre 9, donc verset 31. Il parlait de son départ. Alors en français, ça ne nous dit pas grand-chose. Sauf qu'en grec, ici, c'est littéralement de son exode. Jésus parlait de son exode avec Moïse et Élie. Jésus, le nouveau Moïse, va faire son propre exode en allant à Jérusalem pour mourir sur la croix et là entraîner à sa suite tous les siens dans l'affranchissement de l'esclavage du péché. De même que Moïse a conduit le peuple dans un exode hors de l'esclavage de l'Égypte, Jésus va conduire son peuple hors de l'esclavage du péché au moyen de sa mort et de sa résurrection. Il parlait de son exode qui allait s'accomplir à Jérusalem. Après l'intervention de Pierre, dont nous allons parler un peu plus tard, les derniers éléments de notre récit sont la nuée et la voix qui en sort. Ces deux éléments nous renvoient aussi à l'expérience du désert, d'Israël dans le désert. La nuée nous renvoie à celle qui conduisait le peuple pendant la journée et qui manifestait la présence de Dieu, cette nuée qui se tenait sur le tabernacle, qui était signe de la présence glorieuse de Dieu, et puis qui se tenait aussi sur le Sinaï et qui se tiendra aussi sur le temple. La voix aussi renvoie au désert, à cette voix qui parlait de la nuée, et puis elle renvoie à la voix du Père qui a parlé lors du baptême de Jésus. C'est la voix du Père qui rend témoignage à son Fils. Et que dit cette voix? Elle dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir, écoutez-le. » Cette voix dit plusieurs choses. Elle témoigne de la filiation de Jésus à Dieu le Père. Elle confirme l'identité de Jésus. Elle inaugure et elle valide, d'une certaine manière, la deuxième partie du ministère de Jésus qui va aller jusqu'à la croix, comme la voix du Père lors du baptême avait inauguré la première partie de ce ministère. Et puis, cette voix invite les disciples à écouter Jésus. Et ici, il faut sans doute faire le lien avec le texte de Deutéronome 18, verset 15, où cet autre Moïse est annoncé. Et dans ce texte, nous lisons « Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi de ton propre sein d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Vous l'écouterez. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. Écoutez-le. » Jésus est le nouveau Moïse, le Fils bien-aimé du Père qu'il faut maintenant écouter. La passation est accomplie entre l'ancienne alliance et qui est représentée par Moïse et Élie, que le peuple de Dieu écoutait jusque-là, et la nouvelle alliance qui est maintenant représentée par Jésus et que le peuple de Dieu doit maintenant écouter. Passons aux disciples. Pourquoi Jésus a-t-il choisi Pierre, Jacques et Jean? Pourquoi ces trois-là? Et pourquoi pas Matthieu, Nathanaël et Judas, ou que sais-je? Pourquoi? Notons tout d'abord que ce sont les disciples les plus cités dans les évangiles. Ce sont les disciples qui ont accompagné Jésus à certaines occasions très particulières. Il y a eu la résurrection ou la ressuscitation de la fille de Jaïrus, ça s'est déjà passé. Il y a maintenant la transfiguration de Jésus, et ces mêmes disciples, Jésus les prendra avec lui dans le jardin de Gethsémané pour prier quand il fait face à son agonie. Pourquoi eux et pas d'autres? À l'évidence, parce qu'ils avaient un degré d'intimité avec Jésus que les autres n'avaient sans doute pas. Peut-être aussi parce qu'ils avaient une maturité spirituelle que les autres n'avaient peut-être pas. Enfin, peut-être parce que Jésus les préparait d'une manière particulière pour les tâches particulières qu'il allait leur confier. C'est sans doute un petit peu de tout ça à la fois. Pierre, Jacques et Jean ont donc suivi Jésus sur la montagne. Ils se sont endormis pendant que Jésus priait. Jésus est transfiguré pendant qu'il dorme. Le texte ne dit pas pourquoi, mais il se réveille. Ça a peut-être fait du bruit. Luc nous le rappelle. Et là, quand ils ouvrent les yeux, ils voient donc Jésus dans la gloire, dans sa gloire, en compagnie de Moïse et d'Élie. Et Luc ajoute un détail, et il dit que c'est au moment où les trois hommes se séparent que Pierre fait une proposition à Jésus. Je lis dans le verset de Matthieu parce que les paroles sont les mêmes dans les trois évangiles. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pierre, encore et toujours lui. À l'évidence, il ne peut pas s'empêcher de ne pas parler. Sa spontanéité, sa fougue, son entièreté l'amène régulièrement à donner son avis. Et le texte de Marc précise, il ne savait que dire. Il, au singulier, Pierre, ne savait que dire, parce que la peur les avait saisis. Quand on ne sait pas quoi dire, c'est mieux de rien dire, généralement. Notons que les disciples, comme à chaque manifestation directe du ciel, on le voit tout au long de la Bible, tombent face contre terre, sont saisis de crainte. Matthieu est le seul à dire que Jésus les rassure. Et nous revenons aux paroles de Pierre. Que dit Pierre dans sa stupeur? Il propose à Jésus de dresser là trois tentes, donc une pour lui, une pour Moïse, une pour Élie. Il propose à Jésus d'immortaliser les instants qu'ils sont en train de vivre, de les faire durer, de fixer les choses. Certains ont vu ici un lien, le lien entre cette proposition de Pierre et la fête des cabanes dans le judaïsme, la fête des huttes, qui allait avoir lieu quelques jours plus tard à Jérusalem. Pourquoi commémorer l'Exode à Jérusalem quand on a Moïse sous la main et qu'on peut le faire sur la montagne? C'est fort possible que ce soit ça. En tout cas, on ne peut pas évacuer cette hypothèse. Mais je pense qu'il y a plus dans les propos de Pierre. Une autre compréhension possible est de mettre en parallèle cette proposition de Pierre à Jésus avec ce qui s'est passé 6 jours auparavant, quand Jésus leur expliquait qu'il devait souffrir et mourir, et que Pierre avait dit « Surtout pas, Seigneur !» Et là, peut-être que Pierre est encore en train de proposer un autre chemin à Jésus, un plan B. Pourquoi redescendre pour souffrir et mourir? Cette gloire de Jésus, ne dit-il pas que la venue du règne avec puissance est là? Le but est atteint. Pourquoi redescendre à Jérusalem pour aller au-devant de tant de souffrances? Rester là pour Pierre signifiait que le plan de Dieu pourrait se passer de Jérusalem. Pierre n'avait bien évidemment pas encore compris que les bénédictions du nouvel âge instaurées par Jésus ne pouvaient pas avoir véritablement lieu sans sa mort et sans sa résurrection. Cette manifestation de la gloire de Dieu n'était que momentanée et anticipatoire de la gloire du royaume à venir qui allait découler de la passion de Jésus. Cette compréhension est tentante, mais elle est peut-être un peu trop élaborée pour quelqu'un qui ne savait pas quoi dire. Je ne sais pas. En tout cas, notons qu'il n'y a aucun reproche de Jésus. Et cela laisse à penser que ce n'est peut-être pas la bonne compréhension qu'il faut donner ici. Il y a une troisième compréhension, mais que je vais développer dans les prolongements auxquels nous arrivons maintenant, mais il y a deux prolongements, ça sera pour le second. Passons donc au prolongement. Le premier concerne la transfiguration de Jésus. Pourquoi la transfiguration, c'est-à-dire dans quel but? Et je crois qu'il faut donner ici une double réponse à cette question. Il y a un sens pour Jésus Et il y a un sens pour les disciples, pour Jésus d'abord. Pour Jésus, ces moments de gloire dans la présence de Moïse et d'Élie et dans la communion avec son Père ont dû être d'un grand réconfort. Il y a dans cette transfiguration la mise en perspective pour Jésus de ce qui va se passer après la passion. Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite qui va conduire Jésus à Jérusalem, qui va conduire Jésus sur la croix. Jésus d'ailleurs vient d'annoncer sa mort, ses souffrances. Et cet avant-goût de la gloire qu'il va retrouver a dû être un baume bienfaisant dans cette perspective. Voilà pour Jésus. Passons ensuite à ce que la transfiguration pouvait signifier pour les disciples. Si l'impact pour Jésus n'est pas à négliger, j'ai personnellement le sentiment que c'était d'abord pour les disciples, hormis tout ce qu'ils ont discuté pour Jésus. Mais en tout cas, la part pour les disciples est importante. Et il y a plusieurs formulations dans le texte qui nous font comprendre que cet événement était aussi pour les disciples. Il fut transfiguré, dit le texte au verset 2, devant eux. Devant eux. Verset 3, Élie avec Moïse leur apparurent aux disciples. Verset 5, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. Écoutez-le. » Les disciples sont vraiment partie prenante de ce qui est en train de se passer sur la montagne. Tout comme la voix au baptême de Jésus inaugurait son ministère, nous l'avons dit, la première partie de son ministère, et confirmait à ce moment-là la filiation de Jésus avec Dieu le Père, la voix du Père ici va inaugurer cette dernière partie du ministère de Jésus qui va le mener jusqu'à la croix et va confirmer aux disciples que Jésus est bien le Fils bien-aimé de Dieu et celui que Dieu a choisi. Il y a donc pour les disciples, premièrement, une confirmation de l'identité de Jésus. Souvenez-vous de ce que Pierre avait confessé 6 jours auparavant. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui avait dit « Heureux Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père. » Ce qu'il avait confessé, ils en sont maintenant les témoins, visuels et auditifs. Et puis deuxièmement, il y a pour les disciples une confirmation que ce que Jésus dit est digne de confiance. Écoutez-le, dit le Père. Et on peut certainement faire ici le lien avec l'annonce de la passion qui avait suscité la vive réaction de Pierre. En appelant les disciples à l'écoute de Jésus, le Père confirme le chemin de souffrance et de mort que Jésus leur a annoncé. Ce que Jésus dit est digne de confiance. Écoutez-le. Et puis troisièmement, je crois qu'il y a aussi ici quelque chose de l'ordre de l'affermissement des disciples pour la suite. C'est ici que nous faisons le lien avec les versets qui précèdent, où Jésus va recadrer la vie de disciples en l'associant étroitement à la sienne, à ses souffrances. Et d'une certaine manière, la vie du Maître apparaît comme le prototype de celle du disciple. À la suite de Jésus et de son exemple, le disciple doit être prêt à renoncer à lui-même. Il doit être prêt à perdre sa vie. Il doit être prêt à se charger de sa croix. La vie du Maître comme le prototype de celle du disciple. Voici les versets qui précèdent l'épisode que nous avons étudié ce matin. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et à quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Ou bien que donnera un être humain en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. » Amen, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici, etc. Nous l'avons vu. En leur faisant goûter la gloire à venir, Jésus est en train de les fortifier pour le chemin difficile qui est devant eux. Non, la passion de Jésus ne sera pas la fin de tout. Ils vont le penser à un moment. Non, leur souffrance à venir, ce n'est pas la fin de tout. Il y a une gloire à venir. Et ils ont le privilège d'y goûter sur la montagne. Chers amis, nous n'étions pas sur la montagne. Mais nous sommes néanmoins, nous aussi, au bénéfice des promesses de Dieu concernant la gloire. Si nous sommes en Christ, la gloire nous est aussi promise. Une promesse qui doit nous aider à mettre nos souffrances en perspective. Non, nos souffrances du moment ne sont pas la fin de tout, ne sont pas le point final de notre histoire. Si nous sommes en Christ, alors la gloire nous est aussi promise. Beaucoup de textes en parlent, j'ai choisi celui de Romains 8, qui les dit de manière très explicite, Romains 8, les versets 16 à 25. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui, pour être aussi glorifié avec lui. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps, car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Je sais que c'est compact, c'est dense, vous pourrez le relire à la maison, mais c'est un très beau texte qui parle de la perspective de la gloire. Oui, nous attendons avec persévérance et confiance, parce que Dieu nous l'a promis. L'adoption filiale, la rédemption de notre corps, l'héritage qui nous est destiné, la gloire qui va être révélée. Je termine avec ce deuxième prolongement où nous arrivons à cette troisième compréhension possible des paroles de Pierre. Je crois qu'on peut aussi les comprendre comme le désir simplement de prolonger l'expérience merveilleuse qu'ils étaient en train de vivre. Le désir de rester dans la présence de Jésus et de ses représentants éminents de l'ancienne alliance. La proposition de Pierre de rester sur la montagne nous rappelle la tentation qui peut être parfois la nôtre de vouloir rester sur les montagnes de nos bénédictions alors que Dieu nous appelle à continuer notre chemin. Nous voudrions que ça ne s'arrête pas. Mais le Seigneur nous dit de redescendre dans la vallée. Et c'est peut-être ce qui se passe ici pour Pierre. Pourquoi redescendre dans la vallée quand je peux rester en si bonne compagnie ? Pourquoi redescendre dans les difficultés du quotidien quand je peux rester dans les sommets spirituels ? Il arrive parfois que nous vivions des choses fortes avec le Seigneur, et nous aimerions qu'il en soit toujours ainsi. Et nous pouvons même alors nous lancer dans une recherche effrénée du sensationnel, de l'extraordinaire, de tout ce qui nous fait vibrer avec le Seigneur, de temps fort, exaltant, etc. Et le danger de cette recherche est de finir par croire que l'exceptionnel doit devenir commun. Le danger est de finir par croire que la vie chrétienne normale, authentique, c'est de vivre l'exceptionnel. Le danger est de finir par croire que la course de la foi qui nous est proposée consiste à planter notre tente sur la montagne de notre bénédiction. Mais cela, ce n'est pas la vie chrétienne que Dieu nous propose. Ce n'est pas la vie chrétienne dont parle la Bible. La vie chrétienne dont parle la Bible se vit parfois sur la montagne, mais en réalité, elle se vit surtout dans la vallée. Parfois même dans la vallée de l'ombre de la mort, où la présence de Dieu nous est néanmoins assurée. Vous savez, Pierre a finalement compris la leçon. Comment est-ce que nous le savons ? Parce que quand il écrit sa première épître, nous voyons qu'il a compris la leçon. Souvenez-vous du début de l'épître de Pierre, la première. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande compassion nous a fait naître de nouveau, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ainsi, vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée, etc. Eh oui, il y a l'espérance, il y a la gloire, mais il faut redescendre, parce que pour un temps, puisqu'il le faut, nous sommes attristés dans notre humanité. Pécheresse avec toutes ses conséquences, nous sommes attristés par diverses épreuves. C'est une illusion que je qualifierais de dangereuse pour notre foi et notre marche avec le Seigneur. Et je crois que c'est une illusion à laquelle beaucoup succombent, de croire qu'il faut toujours rester sur la montagne, de croire qu'il faut toujours vibrer avec le Seigneur, de croire qu'il faut toujours rechercher l'exceptionnel et l'extraordinaire. Un jour, ce sera le cas. Ce sera l'exceptionnel pour l'éternité. Un jour, ce sera la gloire pour toujours. Mais pour l'heure, il nous faut encore marcher sur nos chemins humains, parsemés de joie et de peine, parsemés de rires et de pleurs, parsemés de victoires et de défaites, parsemés de montagnes et de vallées. Que le Seigneur soit toujours notre force et notre soutien. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.